Le mouvement sioniste va donc contribuer à sauver le nazisme d'un boycott qui avait été appelé par les communautés juives du monde entier.
Et quelle était la position de Ben Gurion, qui va devenir le premier ministre d'Israël et qui a joué un rôle très très important dans les années 30 et 40, c'est un peu le leader du sionisme. Quelle était sa position sur cette question d'Hitler?
Mais sa position est très simple. C'est une position qui est une position utilitariste. Utiliser, comme d'ailleurs dans toute l'histoire du mouvement sioniste, utiliser toutes les possibilités pour favoriser la création de l'État d'Israël et l'immigration juive en Palestine, quelle que soit la nature, y compris, par exemple, s'opposer au recueil des orphelins juifs qui fuyaient, qu'on pouvait faire fuir vers l'Angleterre. Et on a des déclarations à ce moment-là, et de Ben Gourion et d'autres, disant qu'il vaut mieux perdre des enfants juifs plutôt que de diminuer l'attrait vers la Palestine comme lieu de refuge.
C'est donc pas un but humanitaire, c'est.
Absolument, c'est juste de l'utilitarisme complètement inhumain.
En 1947, l'ONU va accorder une partie de la Palestine aux sionistes juifs. C'est l'ONU, donc est-ce qu'on peut dire que le droit a consacré l'existence d'Israël?
D'abord, il faut, à chaque fois qu'on parle de droit international et des organismes internationaux, toujours les resituer historiquement. De la même façon que lorsque la Société des Nations donne un mandat britannique et introduit la déclaration Balfour dans le mandat britannique pour gérer la Palestine, eh bien, qui dirige la SDN? Les pays sont colonisés, la plupart, tous les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine sont, enfin d'Afrique et d'Asie, pardon, sont encore colonisés. Eh bien, en 1945, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que l'ONU en 1945? Ça n'est pas l'ONU d'aujourd'hui. L'ONU en 1945, ce sont les grandes puissances, puisque les autres pays sont colonisés. Et donc, c'est cette ONU-là, regroupant essentiellement les grandes puissances, qui décide le plan de partage. Mais même avec cette composition, le plan de partage commence à l'ONU d'abord par être rejeté. La majorité des États, une faible majorité d'États, reste pour une Palestine unique. Entre deux votes, on va avoir le changement de position d'une dizaine de pays. Lorsque l'on regarde ces pays, on s'aperçoit que, en l'espace d'une quinzaine de jours, les États-Unis ont fait pression sur des micro-États dépendants économiquement, dépendants militairement de Washington, pour obtenir, eh bien, un changement de position. Des gens qui avaient voté contre la partition deviennent brusquement pour la partition. Donc, d'une part, l'ONU n'est pas représentative à l'époque, et d'autre part, il y a eu en plus instrumentalisation et manœuvre des États-Unis.
Et en 1948, Israël va prendre beaucoup plus de territoire que ce qu'on lui avait donné. Et ça se passe comment?
Ah bien, tout simplement, c'est là qu'on s'aperçoit que le plan était bien un plan de violence sur le peuple palestinien, puisque on va avoir une politique qui est une politique de terreur, ce qu'on va appeler la Nakba, dans laquelle on va refouler les Palestiniens en dehors de Palestine. C'est une vraie catastrophe au sens où ce sont des centaines de milliers de Palestiniens qui sont obligés de quitter leur terre, bien au-delà de la superficie qui avait été octroyée par les Nations Unies et sans aucune réaction sérieuse des Nations Unies.
Et au niveau arabe, quand va se développer la riposte et la résistance?
Le monde arabe est un monde qu'il ne faut pas idéaliser en matière de solidarité avec la Palestine. Il est dirigé par des classes sociales, dans de nombreux pays, pas tous, mais dans de nombreux pays, par des classes sociales qui sont en lien avec les grandes puissances qui décident de créer l'État d'Israël. Et par conséquent, on va avoir des politiques ambiguës. Pour répondre aux volontés populaires de soutien à la Palestine, on a un discours sur la Palestine de soutien, mais dans les réalités, il y a très peu de mobilisation. Voire même, un certain nombre d'États arabes ont des vues sur la Palestine. Par exemple, la Jordanie entre en guerre à ce moment-là, mais avec l'idée, non pas de soutenir la création d'un État palestinien, mais de s'approprier la Cisjordanie. Et donc, on va avoir en réalité un monde arabe qui va se mobiliser à minima dans cette guerre. D'autant plus que le mouvement sioniste, lui, est préparé de longue date. Il a été armé en 1936 par la Grande-Bretagne avec des armes qui sont des armes modernes, puis qui se sont encore modernisées pendant la Seconde Guerre mondiale, les milices sionistes ont été transformées en véritable armée de l'intérieur. Et lorsque éclate la guerre de 1948, on est loin du schéma, des Goliaths contre le petit David. En réalité, les milices sionistes sont quantitativement et qualitativement au niveau des armes plus importantes que l'ensemble des armées arabes réunies. Cette image de milice nous trompe. En réalité, c'est une véritable armée qui a été constituée à l'ombre des Britanniques en Palestine.
Dans les décennies suivantes, si on regarde les cartes, on va voir que le territoire d'Israël ne cesse de s'agrandir en 67, puis encore après.
Absolument, mais cela n'a rien d'étonnant. Le mouvement sioniste, par définition, est une colonisation de peuplement. Dans le livre, je donne de multiples citations des congrès sionistes mondiaux dans lesquels on s'aperçoit que l'objectif est bien de peupler l'ensemble de la Palestine et d'éliminer le peuple palestinien. Alors certains parlent de l'éliminer physiquement, d'autres parlent de l'éliminer en le déportant, mais l'idée d'un départ de l'ensemble du peuple palestinien est présente de manière transversale à toute l'histoire
du mouvement sioniste. Mais Israël dit toujours que ce sont des réactions à des agressions des Palestiniens.
Ça, c'est la distinction entre prétexte et cause. Effectivement, dire que c'est en réaction à un acte palestinien, cela s'appelle un prétexte. La véritable cause, c'est la poursuite de ce que portent toutes les colonisations de peuplement, c'est-à-dire une tendance au génocide. Quand on veut remplacer un peuple, il n'y a pas 36 solutions. Cela débouche soit sur le génocide, soit sur la déportation, qui est en réalité une autre forme du génocide.
Finalement, il va y avoir quand même des négociations. Il va y avoir des accords à Oslo. Certains pensent que c'était un espoir, une chance. C'était quoi Oslo ?
Oslo était un piège. Oslo était un piège que les Palestiniens ont été contraints d'accepter compte tenu de l'état du rapport de force à l'époque. Quel était le rapport de force à l'époque ? C'est un rapport de force d'isolement de la résistance palestinienne. Les Palestiniens avaient été massacrés en Jordanie et donc ne pouvaient plus résister à partir de la Jordanie. Ils avaient été éliminés du Liban par une intervention israélienne, et pour sauver la population libanaise avait accepté de quitter le Liban vers l'Algérie, la Tunisie et d'autres états d'accueil, et par conséquent il n'y avait plus de possibilité de résistance de l'extérieur. Secondo, les états arabes de la région commençaient l'un après l'autre à reconnaître l'état d'Israël, c'est-à-dire à abandonner la Palestine. Donc les Palestiniens se retrouvaient dans une situation d'impasse et c'est ce qui les a amenés à signer Oslo. Mais ils ont signé Oslo dans l'idée que c'était une étape, une trêve avant de pouvoir rebondir. Et ce qui s'est mis en place à Oslo, ça a été tout simplement la mise en place d'une entité palestinienne croupion qui était entièrement dépendante au niveau économique, au niveau militaire, au niveau des contrôles, au niveau de l'ensemble de la vie, était dépendante de l'État d'Israël qui était à côté. Une telle situation est bien entendu impossible. Elle signifie tout simplement soit que les Palestiniens acceptent de devenir un bantoustan, soit ils se révoltent. Ils se sont révoltés et ça a donné prétexte aujourd'hui à un génocide, le premier génocide télévisé.
Est-ce qu'on peut conclure avec la question de la résistance ? Il y a eu différentes époques, différents mouvements. Quelle a été l'attitude du peuple palestinien et de l'Occident par rapport à cette résistance ?
Le peuple palestinien a toujours été dans le soutien à sa résistance. En réalité, la résistance et le peuple palestinien ne peuvent pas être découplés. Comme dans toute l'histoire des luttes anticoloniales, c'est le peuple lui-même qui donne naissance à des mouvements de résistance. Les stratégies d'Israël ont toujours été de diviser le peuple palestinien de ses organisations de résistance. Et là, ça nous rappelle d'autres résistances, comme la résistance anti-nazie ici en Europe. C'est les mêmes
schémas. C'est légitime en droit international d'employer la violence pour résister
au colonialisme. Le droit à la résistance à l'oppression est présent dans toutes les déclarations universelles, que ce soit la déclaration de 1789 à la déclaration de 1948, le droit et la jurisprudence internationale, la résistance à l'oppression est un droit inaliénable de l'homme,
et
jusqu'à
donc,
présent.
Et donc l'Occident qui traite les Palestiniens de terroristes, il se met à l'encontre du droit international ?
Absolument, absolument. Maintenant, le droit international, il est aussi l'objet d'interprétation de ce qui domine à un moment donné les organismes internationaux, et donc il y a un combat sur l'interprétation du droit, mais si on regarde l'histoire de ce droit international, effectivement, le droit à la résistance fait partie des droits inaliénables de l'homme.
Campus.
J'ai compris. Vous pouvez compter sur moi, j'ai compris. Oui, oui. Comment ça, j'ai pas compris? Ah oui, c'est ça. Ah oui, j'avais pas compris.
106,6.
Bonjour pour cette émission de Forum. Aujourd'hui, nous invitons Victor Dédage, l'animateur du site Le Grand Soir et un homme à qui la liberté de l'information en France et dans le monde doit beaucoup, parce que c'est lui qui a organisé, animé, à lui tout seul, je dirais, une formidable campagne pour la libération de Julian Assange, campagne qui a porté ses fruits. Pourquoi? Comment? On va voir. Victor, bienvenue.
Merci.
Et justement, on va te demander d'abord, le jour où Julian Assange est enfin libéré, après des années de campagne, on n'y croyait pas beaucoup. Tu te sens comment?
D'abord, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas que moi qui ai mené le combat. J'étais probablement à l'initiative, ou un des premiers, non pas à m'engager dans la cause, mais à m'engager et à la fois à accepter de parler en public, ce qui m'a rendu plus visible que d'autres. Il faut saluer les petits soldats qui ont œuvré quand même beaucoup et étaient très dévoués à la cause.
C'est un très grand comité. En Belgique aussi, il y a eu un comité Free Assange qui faisait des belles actions dans la rue tous les lundis. Mais toi, tu as donné combien de conférences d'exposés?
Alors, j'ai passé 5 ans à temps plein à faire que ça. J'ai donné entre 250 et 300 conférences à travers la Belgique, le Luxembourg et la France. Majoritairement la France.
Une fameuse performance. Alors, tu te sens comment le jour où on te dit « il est libre, il rentre
d'abord,
à la maison » ?»
On ne me le dit pas. D'abord, je suis réveillé par un message que je reçois sur mon téléphone à 2h30 du matin. C'est un neveu qui habite à Melbourne, en Australie, qui m'envoie un message laconique qui dit « il rentre en la maison, youpi ». Alors, première réaction, il s'est trompé de destinataire. Deuxième réaction, très rapide, je savais qu'il était intéressé à l'affaire Assange, qu'il militait lui-même d'ailleurs à Melbourne. Mais je n'arrivais pas à, dans les brumes comme ça. Alors je vais sur le compte de Twitter X, de direct à la source. Effectivement, j'apprends qu'Assange est libre. Pour décrire la surprise, le niveau de surprise que nous avons tous eu, et nous tous voulons dire les gens de la solidarité, il faut raconter qu'une semaine à peine auparavant, nous étions encore dans une réunion vidéo web conférence de tous les comités à travers l'Europe, engagés dans des discussions avec nos partenaires américains, dans l'hypothèse que nous avions tous qu'il allait bientôt être extradé et qu'il fallait transmettre le témoin aux Américains parce que bientôt, c'est eux qui allaient porter le poids de la campagne.
Il allait être extradé et il risquait très gros.
Et il risquait 175 ans de prison dans un trou noir, dans les supermax américains. Lors de cette réunion qui s'est déroulée quelques jours avant l'annonce de sa libération, il y avait une personne qui avait été dédiée, dévouée, nous avait été confiée, une assistante de Jeremy Corbyn, qui était affecté à temps plein pour coordonner la solidarité aux États-Unis, qui était en train de planifier son déménagement vers Washington. C'est quelqu'un donc qui était très proche de la solidarité avec Assange et qui semblait être, elle aussi, dans l'ignorance la plus totale. Donc quand je dis que ça nous est tombé sur le coin de la tête, ça nous est vraiment tombé sur le coin de la tête. Alors, réaction, la mienne, un mélange de joie, évidemment, et de perplexité. Je titre un peu dans l'humour, mais il y avait du vrai là-dedans. J'ai dit que j'ai fait une dépression postpartum. C'est la meilleure description que j'ai trouvée pour expliquer ce qui se passait.
C'était ton combat depuis 5 ans et tout d'un coup...
Et puis il y a cette sensation que quelque chose nous avait échappé. Et qui, d'ailleurs, je l'ai toujours, cette sensation qu'il y a quelque chose qui nous a échappé.
C'est pas clair, la libération ?
Écoute, je trouve que c'est pas clair. Il y a plusieurs aspects qui me troublent. D'abord, la vitesse avec laquelle ça s'est fait. Le scénario qu'on a reconstitué, c'est que l'accord a été signé un dimanche entre Julian Assange et le département de justice américain, que le lundi qui a suivi a été passé à trouver un transporteur privé, parce que l'accord stipulait qu'il devait être transporté par un avion privé et pas prendre un avion de ligne. Et mardi, il est sorti de la prison. Il a pris un avion privé, donc destination d'abord Bangkok pour une escale, et nous étions déjà des milliers à suivre le vol de l'avion sur les sites qui permettent de... En disant que c'est pas possible, il va se passer quelque chose, l'avion va être détourné, c'est un piège, il va faire demi-tour et partir vers les États, va savoir quoi. De Bangkok, il est parti ensuite aux îles Mariannes, qui appartiennent aux États-Unis, un territoire des États-Unis. Alors certains ont dit a posteriori que c'est le seul île que les Américains ont trouvé où il y avait à la fois un juge fédéral et pas de bureau de la CIA. Et là, l'avion a atterri, je ne sais même pas s'il a coupé les moteurs. Il est rentré dans un tribunal où le journaliste local était en train de faire le scoop de sa vie, les îles Mariannes, en train de faire un reportage en direct devant le tribunal. Lui qui avait apparemment plus l'habitude de décrire un nouveau passage piéton qui venait d'être fabriqué, un truc comme ça. Je veux dire, ça ne peut pas être un coin où il se passe beaucoup de choses. Et plus tard, on a eu quelqu'un à pirater l'audio de tout l'audience, je peux dire que c'était bon enfant, réglé comme du papier à musique, tout était écrit d'avance.
Tout était arrangé.
Tout était arrangé.
Du coup, ta surprise, on s'attendait à ce que les États-Unis allaient vraiment le prendre, l'enfermer à Guantanamo, lui terminer sa vie, et tout d'un coup, il est libre. Et je voudrais insister, pourquoi il a été libéré, ou plutôt, qui l'a libéré et contre qui ?
Alors, j'ai pas de réponse. C'est ça qui est un peu frustrant. D'abord, la question que je me pose, c'est pourquoi ça a été organisé comme une opération commando ? Pour moi, c'est l'équivalent d'une opération commando. Lundi, on trouve l'avion, mardi, tu pars.
Oui, je comprends bien, mais qui aux États-Unis a décidé de le libérer ?
Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai raconté dans toutes mes conférences. Ma version à moi, c'était, je disais aux gens, selon moi, on n'a aucune chance de le sauver. Je faisais les conférences pour pas qu'on l'oublie. Que selon moi, il a été extradé, enfermé dans un trou noir, qu'il fallait faire une croix dessus. Que mon objectif, c'était simplement qu'il ne parte pas dans l'inconnu, dans la nuit, qu'il y ait des gens qui soient au courant, qu'il a existé, qu'il allait partir. Mais, je rajoutais, on sentait quand même que ça tenait à pas grand-chose. Quand on a l'oreille collée au sol, quand on suit une affaire, il y a des choses qu'on sent. Et une des choses qu'on pressentait, alors c'est facile à dire a posteriori, mais bon, c'est qu'il y avait des forces au sein de l'administration américaine qui étaient en conflit sur cette affaire, qu'il y avait des pour et des contre. Il y a des gens qui voulaient sa peau, littéralement, et il y a des gens qui pensaient que c'était allé trop loin et que ça portait plus préjudice aux États-Unis et que ça pouvait être encore pire si l'affaire était importée aux États-Unis, que d'un seul coup, la presse américaine se réveillait en disant « Voilà une affaire de liberté de la presse, voilà un journaliste qui est attaqué par une loi sur l'espionnage, une première dans l'histoire des États-Unis ». Ça pouvait devenir chaud.
Le déballage aurait fait du tort.
Si déballage, il y a eu. On savait que, par exemple, des avocats, les plus grands avocats américains, s'étaient déjà constitués en poule pour dire qu'ils allaient défendre Assange. On savait que les plus grands podcasteurs américains, conservateurs comme progressistes, dans la perspective de son extradition, étaient déjà en train de l'annoncer, qu'ils allaient en parler, que c'était un scandale. Et on connaît leur pouvoir aujourd'hui de ces podcasteurs-là. Donc il y avait un terreau apparemment prêt pour une catastrophe annoncée, catastrophe relations publiques.
J'insiste avec ma question, qui des noms ?
Alors, on n'a pas. On ne sait pas.
Il était en campagne électorale. Il avait quand même un petit...
Alors, c'est le département de justice qui a signé l'accord, donc forcément, c'est venu de très haut. Qui a été le facteur déterminant? Ça reste à écrire. J'ai aucun nom, j'ai aucune idée de qui a pu faire ça. Mais je reste sur cette idée qu'une partie de l'administration américaine, d'où l'organisation d'une opération commando, l'a fait, a réalisé cette opération contre une autre partie de l'administration américaine le plus vite possible pour pas qu'ils puissent le saboter. D'où le choix des îles Mariannes, parce qu'il fallait voir les tweets furibards le lendemain qui ont été publiés par des néoconservateurs, notamment Mike Pompeo, c'est un scandale, comment ça a pu se faire, etc., etc.
Est-ce que ce serait lié alors à différentes tendances dans la politique internationale des États-Unis?
Je pense que c'était vraiment interne. L'image de marque...
Trump...
Les néoconservateurs, les néoconservateurs voulaient sa peau, c'est clair, net et précis. Principalement
mais
les
Trump, à un moment donné, il a fait des phrases sympas.
Il a fait des phrases sympas, puis il a aussi dit plus tard qu'il ne connaissait rien à l'affaire Assange. Comme il est souvent dans ses contradictions, Trump, on ne va pas lui en vouloir, il est dans le personnage. Donc, par contre, on a eu des déclarations, par exemple, de son fils, quelques mois avant la libération, dans un podcast de Tim Pool, qui est un conservateur américain, pro-Trump, etc., qu'il a interpellé assez sèchement sur l'affaire Assange. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il va être pardonné? Comment ça se fait qu'il est en prison, etc.? Et le fils de Trump, Donald Trump Jr., donc, dit, en substance et presque mot à mot, si vous m'aviez posé cette question il y a quelque temps, j'aurais dit qu'il fallait l'extrader, que c'était un traître. Mais maintenant que je connais mieux l'affaire, je pense qu'il faut qu'il soit libéré. C'est ce qu'on fait de plus proche de Trump, hein, son fils, etc. Donc, va savoir. J'ai plus grand-chose à dire, sinon qu'il y avait des signes qu'il y allait avoir une sorte de résistance, que ce n'était pas certain du tout, eu égard aux enjeux et à la haine qu'il avait provoquée chez les services de renseignement, eu égard au poids qu'ils ont dans le deep state, l'état profond. On pouvait imaginer très bien que ça irait dans un sens ou dans l'autre. Et là, en l'occurrence, c'est allé dans le bon sens. Ce qui est aussi étonnant, c'est l'accord qui a été passé, le contenu de l'accord.
Oui, j'allais le dire justement. C'est une victoire totale, pas totale? Quel est le pour et le contre?
Pour moi, c'est une victoire totale de la part d'Assange. C'était ce qu'il pouvait espérer de mieux. À part une libération et une défaite en race campagne que les États-Unis n'auraient jamais acceptée. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, tel que je le perçois, c'est s'il te plaît, est-ce que tu peux avouer ta culpabilité dans l'accusation suivante, conspiration pour obtenir des documents classifiés et les publier. En gros, la description de l'ordre de mission de Wikileaks, quoi. Chose à quoi Julian Assange a avoué. D'ailleurs, dans la transcription audio de son procès, il dit « J'avoue avoir conspiré pour obtenir des documents classifiés pour faire un travail de journaliste ». Donc il a glissé.
Pour faire un travail de journaliste.
Il l'a glissé, il a dit ça. La juge a eu un petit rire étouffé, je crois, comprenant sa manœuvre, et puis ça a continué, mais très bon enfant. Je veux dire. Le reste de l'accord, c'est, et ça c'est super important, les États-Unis s'engagent à ne poursuivre aucun autre membre de Wikileaks. C'est une des épées de Damoclès qui pendait sur la tête de tous les autres membres de Wikileaks. Deuxièmement, les États-Unis s'engageaient à ne pas poursuivre Wikileaks pour les autres publications postérieures à celles pour lesquelles il était officiellement poursuivi, c'est-à-dire des publications de 2010 sur l'Afghanistan et l'Irak. Mais dans le plan qui avait été révélé et fuité vers Wikileaks, établi par la société privée Stratfor, le plan potentiel était de le poursuivre jusqu'au bout de la terre, jusqu'en enfer s'il le fallait, en lui imposant des poursuites judiciaires les unes après les autres. C'est-à-dire qu'ils auraient perdu 7 affaires d'extradition pour les publications de 2010. Ils allaient recommencer pour les publications de 2011.
La persécution sans fin.
Sans fin. Donc ils effacent tout. Ils effacent tout. Et troisième événement, troisième condition, c'est qu'ils prennent un avion privé. C'est bizarre. Et une autre condition favorable à Assange, c'est qu'il ne fait pas l'objet, comme c'est souvent le cas, d'un gag order, on appelle ça en anglais, d'un bâillon, ordre de bâillon, c'est-à-dire l'interdiction d'en parler. Même pas ça. Donc en fait, Julian Assange, il a sauvé en fait toute l'équipe de Wikileaks, pas que lui-même, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de poursuite. Il a sauvegardé l'activité potentielle de Wikileaks. Wikileaks peut continuer à travailler. Et il peut continuer à en parler. Il a finalement avoué coupable au métier et l'ordre de mission de Wikileaks. Bon, ok. À part ça, Wikileaks aurait, maintenant on ne sait pas de quoi il s'agit puisqu'on ne connaît pas le contenu, aurait détruit tous les documents qu'il n'avait pas encore publiés. C'était une des conditions sine qua non pour sa libération. Bien qu'on ne sache pas si on parle des documents concernant le procès 2010 ou si c'était tout ce que Wikileaks avait en archive. Sachant que de toute façon, il y a des sauvegardes qui ont été distribuées de partout et que ces documents en question existent. S'ils existent, ils existent déjà en copie.
Imaginons que nous vivions une démocratie policière.
T'exagères ?
Ouais.
Qu'il y ait des caméras partout et de la biométrie dans l'air.
T'exagères.
Qu'il y ait un flic à chaque coin de rue, au cas où on soit trop têtu.
Pour nous protéger de nous-mêmes, parce qu'au bout du compte, on nous aime.
Ah, quand même.
Hé, hey, monsieur l'agent.
Mademoiselle.
On fait que chanter le passé avec des airs de barricade. Dans le genre, faut pas oublier se souvenir des camarades. Dans le style un peu culturel, rien à redire, c'est artistique.
En plus, les comédiennes sont belles.
Eh, hey, y a un homme derrière chaque flic.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
En entonnant « Casse-toi, pauvre con !» Et ce serait nous fourvoyer. C'est vrai, il manque d'éducation, mais on a plus à lui reprocher que quelques gesticulations.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
Chasseurs d'immigrés pour défendre la République. On pourrait aussi s'étonner des sales besognes que font les flics. Détestés dans toutes les cités, méprisés dans les quartiers chics. C'est une drôle de destinée si c'est glamour.
C'est pas d'éthique.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
Les lycéens qu'ils ont matraqués.
Et Joachim qui perd un œil.
Oh, le taser qui peut tuer.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante.
La situation difficile de prévoir l'avenir. Après tout, ce n'est qu'une chanson. On est là pour vous divertir.
Quoi qu'il en soit, ce qu'on espère, mais ça va pas vous étonner, c'est d'avoir beaucoup mieux à faire que de chanter.
Radio Campus.
Dans des circonstances que je tiendrai secrètes, une personne dont je tairai le nom m'a dit des choses que je ne peux pas répéter.
106,6.
Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur l'affaire. Pour moi, c'est une victoire en race campagne de Julian Assange par rapport à le sort qui lui était promis. Il s'en sort très bien, eu égard aux conditions et aux circonstances, après avoir beaucoup, beaucoup souffert.
Oui, quand même, hein, il faut quand même dire... au point de vue... D'ailleurs, les responsables des commissions d'ONU sur la torture disent que c'est vraiment une torture. On a essayé de le rendre fou, on a vraiment essayé de le briser.
Le rapporteur, ex-rapporteur sur les droits, sur le traitement, la torture des Nations Unies. Alors, un rapporteur spécial des Nations Unies, c'est un peu comme un consultant pour une entreprise. C'est quelqu'un qui a un budget, qui a une équipe et qui est mandaté par les 197 ou quelques pays de l'ONU pour des sujets particuliers. Alors, il y a des rapporteurs spéciaux sur la faim, sur le droit des femmes. Et lui, donc Nils Melzer, a fait une enquête, a finalement accepté de s'intéresser à ce cas que lui-même dit ne l'intéressait pas, tellement, c'est lui qui le dit, qu'il avait été marqué par la propagande des médias et qu'il a découvert quelque chose...
La propagande des médias. Alors, il y a quand même un point à soulever. Assange a fait un travail de journaliste. Il a fait des révélations sur les crimes de guerre des États-Unis, des gens très haut placés. Ça n'intéressait pas les médias ?
Ça les a eu intéressés. Ça les a très intéressés, d'ailleurs, au début, quand Wikileaks est arrivé sur le marché, quand Wikileaks s'est fait vraiment connaître en 2010, quand Wikileaks a explosé sur la scène internationale. On ne parlait que de ça à l'époque. Hein. Wikileaks, Julian Assange a fait la couverture de Time Magazine, il ne faut pas oublier. L'homme de l'année... pour le journal Le Monde. Et avec quelle facilité, ensuite, ils ont réussi quand même à le faire oublier. Il y a des gens aujourd'hui, ah oui, qui c'est ce Julian Assange ? Ah oui, Wikileaks, je me souviens. Où est-ce qu'il est actuellement ? Il est toujours en prison à l'ambassade du Brésil, ou je ne sais pas quoi. L'objectif des médias était de le faire oublier. Après en avoir profité et fait leur chou gras sur les révélations de Wikileaks, l'objectif clair, net et précis de la campagne, c'était le mettre dans un trou noir, déjà dans un oubli.
Pourquoi ? Ça dérange ?
Le modèle de Wikileaks, sans rentrer dans le détail, qui consistait à recevoir de la part des lanceurs d'alerte des documents dénonçant des crimes, de deuxièmement vérifier que ces documents étaient authentiques avec une équipe de journalistes, donc un vrai travail de journalisme, et de s'engager moralement à les publier, quelles que soient les personnes mises en cause, faisait que, deux points, ouvrez les guillemets, et si vous n'avez qu'une phrase à retenir, s'il vous plaît, retenez celle-là, Wikileaks constituait une menace existentielle pour tous les pouvoirs corrompus. Le danger que représentait Wikileaks était très, très, très clairement perçu par ceux d'en face. Il ne faut jamais oublier que les États-Unis avaient constitué une équipe de 120 agents du FBI et de tous les services de renseignement américains. On dit que c'est plus que pour la chasse de Ben Laden, pour abattre Wikileaks et Julian Assange. En face, l'affaire a été prise très, très au sérieux. Et a été menée rondement, avec beaucoup de professionnalisme de leur part. Il y a eu une belle résistance de la part de Julian Assange, mais ils ont fini quand même par l'attraper, avec la complicité quand même de 5 nations. Le rapporteur Nils Melzer, il dit, c'est la première fois qu'il voit 5 pays s'acharner sur un seul homme. Les 5 pays étant la Suède, qui commence, l'Angleterre, qui continue, les États-Unis toujours en embuscade, il y a l'Australie qui... parce que Julian Assange est australien, mais l'Australie ne fait pas grand-chose pour sauver son citoyen. Et puis il y a évidemment l'Équateur, qui après lui avoir accordé l'asile, change de président, change de politique, et finit un jour par autoriser la police de rentrer dans l'ambassade et littéralement de les kidnapper.
Est-il exact que des justices, je pense à la Grande-Bretagne, la Suède, ont conspiré, pour employer un vilain mot, pour que Assange soit enfermé longtemps ?
C'est peut-être un vilain mot, mais c'est le mot qui convient. Nous savons. Parce qu'il y a eu des fuites de courriels obtenus soit par des fuites, soit par des actions en justice, par notamment la journaliste italienne Stefania Maurizi, qui fait un travail qui continue aujourd'hui, qui prouve qu'il y a eu complot, conspiration entre les services de procureurs suédois, les services de procureurs britanniques, pour mener cette affaire de façon complètement irrégulière et d'en faire une affaire politique. Ce n'est même plus discutable. Ce qui est discutable aujourd'hui et qui se discute, c'est que sont devenus des milliers de courriers qui ont été, par inadvertance, supprimés du côté suédois. Et aussi, on vient de l'apprendre, il y a un mois ou deux, supprimés du côté britannique. Oups,
quel
oups,
hasard.
Oups. Il y a un juge britannique récemment qui a rendu un jugement en ordonnant la publication de ces emails. Mais le service des procureurs de la reine, comme on disait à l'époque, ou de la couronne, on dit qu'ils les avaient supprimés, qu'il n'y avait plus moyen de les récupérer. Il s'agissait, Nils Melzer, je reviens au rapporteur simplement, dans son enquête exhaustive, il a publié un livre en anglais, L'affaire Assange, chez les éditions critiques, ça se lit comme un roman policier. Il se trouve qu'il parle le suédois, donc il a consulté les pièces originales de la police suédoise, etc., etc., de toute cette affaire de fausses accusations de viol, etc. Il a relevé, c'est lui qui le dit, plus de 50 violations des droits de Julian Assange. Constitue une sorte de record. Autre point important, je pense, sans rentrer dans le détail, étant le rapporteur, comme j'ai dit, le représentant quand même des Nations Unies, il est généralement traité avec certains égards ou respect. Même dans les régimes dictatoriaux, on lui fait l'honneur de répondre à ses interpellations. Or, dans cette affaire-ci, il a reçu un mur de silence et de mépris de la part de la Suède et de la Grande-Bretagne notamment. Il n'avait jamais vu un traitement pareil. C'est-à-dire que allé assez loin.
C'est vrai que, pour avoir un peu suivi l'affaire, je me souviens que la première juge britannique qui devait décider de son sort et qui a été très sévère envers lui, son mari fricotait avec les industries de l'armement, donc elle aurait dû se
Son mari et son fils.
Voilà.
Donc oui, elle aurait dû se désister pour conflit d'intérêts, mais c'était quelqu'un qui était habitué à ne pas se désister dans les conflits d'intérêts. Elle avait déjà eu une affaire, l'affaire Uber, qu'elle devait juger, et son mari était un grand actionnaire de Uber. Il a fallu une campagne de presse britannique, pour qu'elle se désiste enfin. Mais dans l'affaire Assange, elle ne l'a jamais vraiment fait.
Disons un peu deux mots des bonnes nouvelles, parce que dans ces temps de pessimisme, de fatalisme, de sentiment d'impuissance, il y a quand même eu, ça a joué un rôle, une mobilisation internationale, partout des petits comités, dans une série de pays. Ça a fait en sorte qu'on ne pouvait pas oublier l'affaire, que de plus en plus de gens en parlaient, et qu'il y avait quand même un malaise, même dans les grands médias, il y avait un malaise parce que les règles n'étaient pas respectées.
Alors, selon les pays, etc., il y a eu quand même, oui. J'ai parlé de la semaine qui a précédé sa libération. Je peux dire aussi que la semaine qui a précédé la libération, nous étions en discussion avec la mairie de Paris pour lui accorder le titre de citoyen d'honneur de la ville. Ce n'était pas fait, mais disons qu'on était arrivé assez haut dans les conversations. En Italie, des dizaines de villes, etc. Je reviens en arrière en disant que le paradoxe, situation paradoxale, c'est qu'il était soutenu par pratiquement tout ce qu'on peut imaginer comme organisation de défense des droits de l'homme. En tout cas, tous ceux que je connaissais et même tous ceux que je ne connaissais pas. Défendu par toutes les organisations de presse, la Fédération internationale de journalistes, le Syndicat national de journalistes, le Syndicat des journalistes britanniques, australiens, etc. Défendu par des milliers de parlementaires à travers le monde, par les organisations de défense des droits de l'homme, par les organisations de l'ONU, par le pape, par sept, peut-être plus, présidents en exercice ou ex-présidents, notamment d'Amérique latine, tous d'Amérique latine. L'appui dont bénéficiait Assange, le Pen Club, les associations de barreaux d'avocats, je ne sais pas combien de barreaux, d'écoles de journalisme, etc. Tous ces gens-là, d'ailleurs, ont fini eux aussi par apprendre qu'il ne suffisait pas d'être, se déclarer solidaire avec Assange, que les médias allaient quand même faire leur mur de briques, etc. Donc il y avait un paradoxe entre une situation sur le papier qui était presque idéale et les grands médias, on va revenir sur eux, qui faisaient barrage, qui traitait l'affaire comme un simple fait divers, qui s'obstinait à le traiter comme un fait divers et qui s'obstinait pour certains à perpétuer les fausses rumeurs ou la fausse information. Et il y en a certains qui étaient très proactifs. Il ne faut pas oublier, par exemple, que The Guardian, qui était partenaire de Wikileaks, a publié carrément des fake news dans son article et qu'ils n'ont jamais rétracté, comme on dit, c'est un anglicisme peut-être, mais ils n'ont jamais retiré l'article qu'ils savaient était complètement faux.
Tu disais que les groupes de solidarité européenne s'étaient réunis, ils se réunissent encore?
Alors, oui, parce que d'abord, c'est des amis, à force. Mm-hmm. Quand on fait ça pendant toutes les semaines, on se réunissait pendant des années, toutes les semaines, donc on finissait par se connaître, on se retrouvait dans les manifestations devant la prison de Belmarsh.
Et ils se réunissent encore parce que ça reste actuel.
Ils se réunissent encore moins fréquemment, mais pour nous, le combat n'est pas terminé. Le combat de défense de la liberté de la presse, du droit de savoir, n'est pas terminé du tout. Assange, pour l'instant, est sauvé. Wikileaks est sauvé. mais ce n'est qu'une partie de l'iceberg de l'information pour laquelle il faut combattre. Alors, un peu rodé sur ce sujet-là, on s'est dit tous, on a une compétence, pourquoi ne pas continuer pour servir cette cause, le droit de savoir.
Voilà un sujet très intéressant. A-t-on encore besoin d'Assange avec ce qui se passe dans le monde? Certainement, ça va être traité dans Forum. Merci, Victor.
Merci à toi.
C'est vraiment pas la peine, Shuriken te le dira, les hommes sont les mêmes. Malgré les pressions et l'argumentation visant à la destruction de ma nation.
Même si j'ai grandi au milieu des rues, ayant derrière moi l'état de pique au cul, je me suis vu et je suis engagé sur une piste. Les cités de Marseille semblent bien tristes.
L'enfance est passée, depuis combien d'amis sont tombés, ne se sont pas relevés. Combien de mères j'ai vu pleurer sur les corps de leur fils par la mort fauchée.
Pendant 7 jours, sous le béton des tours, les larmes de Dieu qui tombaient du ciel. Pour ce monde fou, de Satan la cour, je regardais les violences de mes yeux de miel.
J'ai vu les feuilles mortes, des arbres en automne, tourner à la couleur où je vis comme le fleuve de sang qui encore se répand. Prends sa source en Afrique et s'étend aux quatre vents.
La note est bien lourde, tu ne vois pas ce sang, t'as la mémoire en cours, où tu fis tes souvenirs à une idéologie et volontairement, tu te la raccourcis.
Alors dans ce cas, tu es mon ennemi. Viens ici, si ma religion m'enseigne de paix, la paix ne compte plus si je me sens blessé.
Tu te souviendras de la couleur du tombeau rouge et tu te soumettras, pas d'accord?
Bouge, toi le frère noir, aveugle et sans attention, rouge est la couleur de la révolution.
A whole lot of talk about the red, black and green. Talk about the red, black and green. Ooh, yeah. A whole lot of talk about the red, black and green. Ooh, yeah. A whole lot of talk about the red, black and green. Ooh, yeah.
La rue, combien d'enfants a-t-elle emporté, en a-t-elle eu et abattu, je ne sais plus, le trottoir. Si sombre quand vient le soir, où la mémoire n'a plus d'espoir, semble trop
noir comme la couleur de la peau de mon peuple. Alors je n'ai pas l'esclavage mental, car l'ignorance est telle que le mal elle emporte. Pour un démon qui se voit fort et frappe à nos portes.
Allahu Akbar, protège-nous des ténèbres absolues, qui peut voir. Toi qui es bon, c'est pas trop tard, n'étant pas parfait, j'essaie de faire le même. Je tenterai d'être juste et ça c'est mon problème.
Dominer ma rage, être équitable et sage. Tourner la page sur ceux qui se plaisent au bavardage. Plus de xénophobie, ni de politique. Rien que l'alliance des poètes afro-asiatiques.
Vois-tu ce noir au fond de mes yeux? 40 frères à mes côtés et ils parlent pour eux.
Notre pouvoir est tel qu'ici les barreaux de toute prison. Noir est la couleur de l'unification.
A whole lot of talk about the red, black and green. Ooh, yeah. A whole lot of talk about the red, black and green. Ooh, yeah. A whole lot of talk about the red, black and green. Ooh, yeah. A whole lot of talk about the red, black and green. Ooh, yeah.
Blesse le stress, progresse sans cesse oppressé, presse et laisse l'esprit aux promesses. Pourquoi devrais-je avoir confiance en croulant, déclarant des conneries au nom du président?
C'est pareil mon frère, pourquoi devrais-je avoir un visa? La terre créée par Dieu n'appartient pas, elle est à toi ou à moi. Ou quiconque s'envoie le droit, l'argent est roi. Passe avant tout encore une fois.
C'est une honte de voir les dirigeants à l'assemblée crier, pleurer comme des enfants. Tout est faux, tout pour le dos. Et j'entends le clamer du haut de mon micro.
Ah, tu veux le faire, non pas le faire faire. Les peines souriantes de la terre mère. Enfants déracinés, on a participé à construire le grand pays de la liberté.
Les récompenses ont été pour les fils de Cham, le Ku Klux Klan et la guerre du Vietnam.
Right. Plus de mensonges à l'avenir, faites attention, car vert est la couleur de la libération.
It began.
My brothers red, black, green. My sisters red, black, green. Mes frères red, black, green. Mes sœurs étalées la couleur. Rouge pour les pleurs, noir pour la douleur. Vert pour la sueur. Que quelqu'un se rappelle que l'acier déchaîne n'a jamais quitté les mains et l'esprit de mon peuple que j'aime. Quand on enseigne à vénérer l'armée et apprendre à tuer pêle-mêle, tirer pour la compétition, la domination.
Premier de tous les pas vers la colonisation.
X fixe, le but de nos mix, disque KTON, évite l'avènement lyrics. Poète terroriste, quelquefois soloiste, étudie les causes à effet, t'as un économiste, beaucoup de
plus j'en étudie comme la plupart des fois, même si on a rassemble. Lorsqu'ils viennent de tout te parler, on avertit en demandant si IAM a une devise.
Xénophobe et raciste iront aux jeunes Elvis.
Envers la punition, qu'on crie à l'unisson, doit arriver comme un calme plat de nos visions. Systématiquement, impérialement, automatique. IAM souverain, autonome, asiatique. Comme à des King Rays, à qui je dis salam en les mains. Nous sommes âmes de l'islam et venons en paix. Avec trois couleurs d'émancipation,
rouge, noir, vert, la seule solution.
Clairement, il va falloir réformer.
On en est à des blancs qui s'agenouillent devant les noirs.
C'est pas assez violent, tout simplement. Alors, c'est la société française.
Le droit de grève prévaut, c'est bien normal. La liberté de travailler, qu'en est-il ?
Est-ce que vous pensez parfois à cette France qui a envie de travailler ?
Je trouve qu'on a le droit de critiquer la médiocrité des Gilets jaunes sans se voir taxé comme ça de mépris classe.
Le monde est en train de changer. Alors, serez-vous capable de vous adapter ?
Qui souffre le plus de la grève et des blocages ? Le CAC 40 s'en moque. La bourse, elle monte.
Quand on regarde la réforme des retraites, c'est une réforme de gauche.
Oui, parce que les RTT, les 35 heures à l'hôpital ont désorganisé l'hôpital public.
Il y a eu de la torture, il y a eu tout ce que vous voulez, je ne le nie pas. On n'a rien fait de mal.
On considère que le droit au travail, c'est le droit de choisir son travail.
Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
L'heure de le mettre, mercredi à 18h30 sur Radio Campus 106,6.
Rien de bon à l'horizon, Madame Soleil préfère les scorpions. Pour les béliers aujourd'hui c'est pas la bonne journée. Il faudra patienter jusqu'à l'été. Car rien de bon à l'horizon, Madame Soleil préfère les lions. Pour les taureaux c'est comme pour les gémeaux. Niveau boulot, rien
l'union de la gauche. L'union de la gauche est nécessaire. L'union est indispensable. L'union de la gauche, l'union de la gauche, l'union de la gauche.
C'est pas une punition, hein. C'est pour ton pays. C'est pour la magie.
S'ils n'ont pas vocation à rester sur le sol français, ils ont donc vocation à repartir chez eux.
Donc à être expulsés.
Et donc, à être accompagnés chez eux.
C'est pas une punition, hein. C'est pour ton pays. C'est pour la magie.
64, non, 65. Ah mais non, 67. Alors je vous le dis, présidente, je sanctuariserai à 62 ans l'âge de départ à la retraite.
C'est pas une punition, hein. C'est pour ton pays, c'est pour la magie.
Parce que c'est notre projet!
Triste Bahia, oh, quando é semelhante. Triste Bahia, oh, quão de semelhante estás, estou, do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a me empenhado. Rica te vejo eu já, tua me abundante. Triste Bahia, ó, quão de semelhante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim vem me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Triste, ó, quão de semelhante, triste.